nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Rapprocher les deux médecines, humaine et animale, c'est le plaidoyer de notre invité dans cette nouvelle émission Focus. Force est de constater que les grandes crises sanitaires de ces 20 dernières années, grippe aviaire, SRAS, vache folle, ont toutes une origine animale. Les études de médecine et vétérinaire doivent-elles se côtoyer ? L'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale doivent-elles à terme fonctionner en une même organisation ? Charles Pilet est avec nous pour répondre à ces questions. Charles Pilet, bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent et ils ont déjà pu retrouver deux émissions sur notre site. En voici une troisième. Vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine, président honoraire de cette académie, membre de l'Académie des sciences, également membre de l'Académie vétérinaire et aussi membre de l'Académie des technologies. Rapprocher les deux médecines, humaine et vétérinaire, votre plaidoyer intervient, j'imagine, dans un contexte de zoonose que l'on observe régulièrement.
Oui, vous savez, les maladies apparaissent. Et des questions actuellement de maladies émergentes et réémergentes. Et je crois qu'il convient en effet de tirer les leçons des grandes crises sanitaires extrêmement sévères que nous venons de connaître au cours de ces trois dernières décennies. Bon, il y a eu d'abord le sida dans les années 80. On sait maintenant que le virus du sida est d'origine simienne, donc d'origine animale. Il y a eu ensuite la vache folle, la fameuse encéphalopathie spongiforme bovine, maladie observée en 1986 par un vétérinaire anglais sur des animaux qui avaient des troubles de locomotion, qui apparaissaient fous, dont le nom de vache folle, et qui à l'autopsie présentaient dans leur cerveau des lésions ressemblées à des éponges, d'où encéphalopathie spongiforme. Il est évident que cette maladie a coûté à la France et à la Grande-Bretagne des milliards. Ça a été une perte économique considérable, due en partie au fait que nous n'avions pas de recherche préalable, et qu'apparaissait là un nouvel agent, qu'elle était le prion, inconnu de tout le monde, et qu'il a fallu, j'allais dire, côtoyer, mieux connaître, et essayer de parer contre les différentes difficultés présentées par ce prion, qui est en fait une protéine normale présente dans le cerveau, qui se transforme et qui permet de faire apparaître la maladie. Donc il y a là une maladie extrêmement sévère, avec des conséquences économiques considérables. Puis après, au début du siècle, en 2002, apparaît le SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère, qui nous vient de Chine. Et là aussi, c'est un virus animal, le coronavirus, ou un des coronavirus, qui a été transmis à l'homme, plutôt qui est un virus appartenant à la famille des coronavirus, et qui était retrouvé chez un animal, on a accusé la civette palmiste. C'est un petit animal très cher aux Chinois, mais depuis, on s'est rendu compte que beaucoup d'autres animaux pouvaient héberger ce fameux coronavirus. Puis arrivé dans les années 2004 notamment, la fameuse crise de la grippe H5N1. Alors là, débat médiatique considérable, avec l'induction de peur dans les populations, avec chute bien entendu de la filière avicole, plus personne ne voulait consommer de poulet.
Oui, parce qu'on avait peur d'une contamination humaine.
On avait peur d'une contamination humaine, et finalement, c'est une crise virtuelle, puisque, comme vous le savez, il n'y a pas eu, ou très peu, de contamination humaine. Et cependant, là aussi, ça a été des pertes économiques tout à fait considérables.
Alors, au travers de ces exemples, vous voulez nous dire qu'on aurait pu éviter ces épidémies si on avait réussi à mêler la recherche en médecine vétérinaire et animale.
Ce qu'il faut, à mon avis, considérer, c'est l'avenir, c'est-à-dire qu'il faut qu'à l'avenir, nous soyons prêts pour mieux lutter contre ces maladies émergentes.
Donc 75% des maladies dites émergentes ont une origine animale,
75%
je crois.
Des maladies émergentes, c'est reconnu par l'OMS, est animale. Donc il faut savoir lutter la contre. Or, il y a tout de même une constatation qu'il faut établir. Cette constatation est la suivante. Ces agents pathogènes ne connaissent pas de frontières. Ils passent d'un pays à l'autre. Ils passent d'un animal à l'autre. Donc pas de frontières zoologiques, pas de frontières géographiques. Or, que voyons-nous dans nos administrations ? Un cloisonnement. Une filière humaine d'un côté, une filière de santé animale de l'autre, avec d'un côté le ministère de la Santé, avec les facultés de médecine, avec l'INSERM, ça c'est la filière santé humaine bien connue, avec de l'autre côté le ministère de l'Agriculture, école vétérinaire, INRA, et deux filières parfaitement étanches qui, heureusement, commencent à s'interpénétrer. Donc il faut que nous tirions profit de ce que nous avons connu dans ces crises sanitaires passées pour qu'à l'avenir, nous soyons mieux armés pour lutter la contre.
Vous voulez dire qu'on manquait de connaissances, de recherches quand ces épidémies sont arrivées ?
Absolument. En matière de vache folle, par exemple, ça c'était net puisque c'était un nouvel agent. En ce qui concerne la vache folle, on se retrouvait un petit peu dans la situation dans laquelle s'est trouvé Pasteur au moment où il s'est attaqué à la rage. Il utilisait pour connaître la rage des méthodes qu'il avait préalablement utilisées pour les maladies bactériennes. Évidemment, ça a été l'échec. Et là, un nouvel agent apparaît, le prion. Personne ne connaissait. Donc, on peut se retrouver dans une position semblable à l'avenir. Il faut donc que nous soyons préparés. Et comme toutes ces crises sanitaires ont été déclenchées par des agents pathogènes venant des animaux, j'en conclus qu'il est nécessaire d'avoir un rapprochement entre le monde de la spécialité animale d'une part et le monde des spécialités humaines d'autre part, c'est-à-dire entre médecins et vétérinaires.
Et un rapprochement qui passe alors par une partie de formation commune ?
Alors, en ce qui concerne la formation, oui, je pense qu'il est anormal que, étant donné les bases scientifiques sont les mêmes pour la bactériologie, l'immunologie, la génétique, la biochimie, etc., ce sont des bases qui sont communes. Aux études médicales et aux études vétérinaires, pourquoi ne pas intégrer ces bases dans une année préparatoire commune, avec ensuite, bien sûr, des études spécifiques, médecin d'un côté, vétérinaire de l'autre. Et ensuite, à l'issue de ces études spécifiques, peut-être, la réunion aussi des médecins et des vétérinaires qui souhaiteraient s'engager en matière de santé publique, dans un master spécialisé, master de santé publique, ça existe déjà, mais il faut, je crois, en augmenter le nombre, qui permettent une meilleure connaissance commune des affaires de santé animale et des affaires de santé humaine.
Mais dans cette année préparatoire commune, est-ce que vous ne pensez pas arriver un peu tard, puisque nous avons déjà fait la réforme de la première année de médecine ?
Bien sûr, elle entre en vigueur cette année pour la première fois, mais il n'est jamais trop tard pour améliorer les choses. Et je crois que ça serait une amélioration dans l'avenir de penser à cela, tout au moins d'avoir une réflexion dans cette direction.
Vous avez cité il y a quelques instants le système français avec le ministère de l'Agriculture d'un côté et le ministère de la Santé de l'autre. Est-ce que ces fonctionnements sont propres à la France ou est-ce que...
Non, on retrouve ce fonctionnement dans beaucoup
d'ailleurs.
D'autres pays. Il y a également d'autres pays qui sont peut-être un peu plus modernes et qui ont, j'allais dire, une co-tutelle de médecine animale et de médecine humaine. Mais dans beaucoup de pays, il en va de même. Mais je crois qu'il y a quand même un espoir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tant sur le plan national que sur le plan européen que sur le plan mondial, les choses évoluent. Au plan national, pour la France par exemple, à l'Académie de médecine, nous avons déjà alerté à plusieurs reprises, et ce depuis 2003, sur la nécessité d'un rapprochement entre les deux médecines. La Grande-Bretagne fait de même. La Royal Society, en 2009, a établi un rapport indiquant qu'il était nécessaire en Grande-Bretagne de créer un institut national pour les maladies infectieuses réunissant médecins et vétérinaires. Aux États-Unis, l'Association des médecins américains a également souhaité un rapprochement avec les spécialistes de la médecine vétérinaire. Et puis en Allemagne, la ministre de la Recherche allemande en 2009 a mis en ligne une plateforme sur la recherche des zoonoses. Donc vous voyez que sur le plan de plusieurs nations, les choses évoluent. Et au plus niveau européen, c'est la même chose. 2005, création à Stockholm d'un centre européen de prévention et de contrôle des maladies humaines et vétérinaires. Avec un rapport en 2008 de l'EASAC, c'est-à-dire le Conseil européen des académies des sciences, rapport auquel j'ai modestement coopéré du reste, dans lequel il est indiqué d'une manière très nette qu'il est absolument nécessaire, compte tenu des crises sanitaires que nous venons de connaître, de rapprocher les spécialistes de la médecine humaine des spécialistes de la médecine animale. Au plan mondial, nous avons également, et c'est ce qui me paraît le plus important, pour la première fois, je crois, dans l'histoire de ces grandes organisations internationales, un rapprochement entre l'OMS, l'OIE, l'Office international des épidémies, qui s'appelle maintenant, vous le savez, l'Office mondial de la santé animale, la FAO, la Banque mondiale,
l'UNICEF
également, parce que c'était une réunion sur la grippe, mais qui a dégagé des conclusions sur l'ensemble de la santé. C'est un rapport qui a été présenté à Sharm el-Sheikh devant les ministres de la santé de différents pays qui s'étaient réunis à cette époque, et dans lesquels il est indiqué d'une manière très nette qu'il était nécessaire d'aller vers un rapprochement des deux médecines, celle de l'homme et celle de l'animal. Donc je crois, vous le voyez, que l'affaire est en route, ça mettra du temps. Mais je pense que l'orientation est prise.
Mais est-ce que votre plaidoyer a encore lieu d'être, puisque ces organismes internationaux maintenant prennent effet et cause,
oui,
comme on dit ?
Par exemple, pour la France, et si vous constatez simplement ce qui se passe dans notre pays, on constate encore que les écoles vétérinaires sont d'un côté, les facultés de médecine de l'autre, et que tout ce beau monde s'ignore. alors qu'on pourrait avoir une année de préparation commune, par exemple, ou que les écoles vétérinaires pourraient avoir une co-tutelle entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça n'est pas le cas. Donc, ce qui est préconisé par les grandes organisations internationales n'est pas encore appliqué par les nations, et en tout cas pas par la nôtre.
Alors, question provocatrice, Charles Pilet, est-ce qu'il faudrait une nouvelle épidémie pour corroborer un peu plus
Je ne le souhaite évidemment pas. Je ne le souhaite évidemment pas, mais le souhait que j'émets, c'est que les autorités de notre pays prennent conscience de la nécessité d'avoir des passerelles de plus en plus nombreuses entre les deux médecines. C'est une nécessité. C'est une nécessité si on veut préserver la santé publique.
Alors, on parle des grands organismes internationaux, on parle de la faculté de médecine, de l'école vétérinaire et les étudiants. Est-ce que les étudiants sont d'accord aussi pour avoir une année commune préparatoire et avoir des disciplines similaires qui existent déjà, mais avoir un programme similaire?
Je crois savoir que oui, dans la mesure, bien sûr, on ne leur impose pas des programmes supplémentaires, mais qu'ils fassent de la bactériologie, de l'immunologie, comme je le disais tout à l'heure, de la génétique ou de la biochimie, ils en font déjà. Donc je pense qu'une année préparatoire, je le répète, avec leurs camarades médecins serait certainement la très bienvenue dans ces domaines-là.
Je parlais au début de cette émission de l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation mondiale de la santé animale. Est-ce qu'à terme, il serait pertinent de réunir ces deux organismes en un seul?
Actuellement, ces deux organismes sont des passerelles. Ils se réunissent très souvent. Ne serait-ce que l'exemple du rapport que j'évoquais tout à l'heure est très significatif. Ce rapport de Sharm el-Sheikh unissait non seulement les efforts de l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, ex-Office international des épizooties, mais aussi l'OMS, avec d'autres organismes internationaux. Il ne faut pas mélanger les choses, mais souhaiter que les rapports soient de plus en plus étroits et fructueux entre ces organisations.
Alors, Charles Pilet, venons-en à vos recommandations, si je puis dire. Vous en avez déjà parlé, une année préparatoire commune. Également, donc, créer un master commun. Et puis, vous parlez de la création, de la possibilité de la création d'un centre méditerranéen de prévention et de contrôle des maladies émergentes. Pourquoi un centre méditerranéen?
C'est une idée que j'ai émise à Rabat il y a quelques mois. Pourquoi? Parce que si l'on regarde la carte de l'Europe et de la Méditerranée, on se rend compte que depuis la création du centre de Stockholm que j'évoquais tout à l'heure, les organisations internationales, et notamment l'OMS, a un centre au Caire et à Rome, bien entendu. Mais il y a toute une zone là qui mériterait d'être mieux équipée en relais d'épidémiologie. Or, dans les recommandations du rapport de ces grandes organisations internationales que j'évoquais, il y a justement la mise en place de centres régionaux, j'allais dire, qui travailleraient en étroite collaboration avec les autres centres. Et moi, je verrais très bien l'installation dans la zone méditerranéenne, dans un pays du Maghreb, par exemple, d'un centre méditerranéen de contrôle et de prévention des maladies contagieuses, qui travaillerait en relation avec le centre du Caire, avec le centre de Stockholm, par exemple.
Parce que les informations ne remontent pas actuellement jusqu'à l'OMS.
Si, mais je crois que les relais, et c'était démontré d'une manière péremptoire dans le rapport que j'évoquais, sont tout à fait importants. Donc il manque, à mon avis, un relais dans cette région du monde.
Et d'autres relais à venir après?
Eh bien, je crois qu'en matière de recommandations, puisque vous évoquiez les recommandations, c'est également des échanges plus fructueux et plus nombreux en matière de recherche. Prenons l'exemple de la vache folle. Si la vache folle a été aussi coûteuse économiquement, c'est que nous ne disposions pas à temps de méthodes de diagnostic rapide et que la recherche s'est mise en œuvre très tardivement par rapport à l'apparition des premiers cas de vache folle. Il a fallu attendre 2006 pour que l'intervention du ministre britannique au Parlement de Grande-Bretagne, indiquant que la vache folle pouvait être dangereuse pour l'homme et créer des cas de Creutzfeldt-Jakob, pour que la recherche se mette en œuvre. Bien sûr, il y avait en France une recherche au CEA, mais elle était relativement limitée. Mais sur le plan international, il n'y en avait pas. Donc je crois que l'interpénétration, la recherche médicale d'une part, la recherche vétérinaire d'autre part, est tout à fait indispensable et très importante.
Et puis j'imagine aussi une collaboration plus minutieuse, plus importante entre les États. Et l'OMS, pour citer cet exemple,
il est tout à fait important que les États
prennent. Je pense à la Chine et au SRAS.
Il est tout à fait important que les États prennent conscience de la nécessité des déclarations précoces des maladies. Si les États asiatiques avaient déclaré plus tôt la H5N1, il est clair qu'il y aurait eu beaucoup moins de dommages sur le plan économique dans le monde entier. En matière de SRAS, vous l'avez indiqué, c'est la même chose. Donc là, il est tout à fait important que les États déclarent très précocement à l'OIE et à l'OMS les premiers cas de maladie.
Et avec des sanctions si jamais l'information ne circule pas
comme
elle devrait?
Ça, c'est une question très difficile, mais je crois que ça dépend des organismes internationaux. Mais je crois que c'est un point tout à fait important. Et puis il faut aussi que s'accélèrent les relations déjà bien établies entre ces grandes organisations internationales que j'ai citées tout à l'heure, l'OMS, la FAO et l'OIE.
Eh bien, je vous remercie, Charles Pilet. Je reprécise à nos internautes auditeurs que vous êtes membre de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, membre de l'Académie vétérinaire et de l'Académie des technologies, et que vous avez rédigé, publié un plaidoyer pour rapprocher ces deux médecines, humaine et animale, et que vous partez un peu en croisade, même si l'idée fait le tour un peu partout dans les organismes internationaux. Merci.
Merci.